Merci Gilles. Donc nous continuons sur les banques et la régulation des banques avec Jean-Paul Paulin.
Merci Patrick. Oui, d'abord je voudrais essayer de répondre un peu à ta question, savoir est-ce que c'est macro, est-ce que c'est micro. Oui, je crois effectivement qu'il y a les deux, cela dit. Sûrement pas, et je suis d'accord avec Anton là-dessus, sûrement pas à cause de... À cause de Greenspan et sûrement pas à cause de taux d'intérêt trop faibles. Je crois que si on peut reprocher quelque chose à Greenspan, c'est en effet de ne pas avoir régulé. Et de fait, il a refusé systématiquement toute régulation. Lorsque Greenspan a mis ses taux d'intérêt à 1%, tout le monde parlait de déflation, y compris nous. Et ce qu'on raconte aujourd'hui, d'ailleurs, sur les règles monétaires à adopter lorsque on risque d'être soumis au problème de la non-négativité du taux d'intérêt nominal, quoi. C'est précisément ce qu'a fait Greenspan, quoi, à très peu de choses près. Donc si on veut chercher la cause macroéconomique de cette crise, je crois qu'en effet c'est important, il faut peut-être mieux aller le chercher du côté de la rentabilité demandée au capital au cours de ces 10-15 dernières années, qui a en effet poussé au crime, en l'occurrence à sous-tarifer le risque. Cette sous-tarification du risque s'est traduite par cette expansion des crédits qui a créé effectivement l'expansion de la base monétaire. Et aidé en cela par le refus de régulation de ces produits complexes, refus, encore une fois, auquel Greenspan s'est systématiquement opposé. Alors, cela dit, de ce fait, venons-en à la question microéconomique, donc à la question de la régulation bancaire. Et ce que je vais dire prend très bien la suite de ce que vient de dire Gilles de Margerie. C'est clair que cette crise est essentiellement une crise de liquidité. On attendait éventuellement une crise d'insolvabilité. Enfin, on décrivait des systèmes de dominos à partir de l'insolvabilité d'une banque qui se répandait aux autres. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. C'est pas un problème de fondamentaux. Ce qui s'est passé, c'est que, en effet, il y a une illiquidité des actifs qui s'est répandue entre les marchés, entre les institutions. D'où la question, évidemment, de la régulation de la liquidité. Gilles de Margerie rappelait que ce dont nous disposons pour le moment, c'est d'une régulation des fonds propres, donc une régulation de l'insolvabilité et pas du tout d'une régulation de la liquidité. Il se dit que lorsque le comité de Bâle a été mis en place au milieu des années 80, il s'était posé la question de la régulation internationale de la liquidité. Et puis, probablement parce que c'était trop difficile, il a renoncé à cette idée. Et je vais, au fond, abonder dans ce sens. Je crois qu'en effet, la régulation de la liquidité, c'est infiniment plus compliqué que la régulation des fonds propres, que la régulation, au fond, des risques, qu'il s'agisse surtout des risques de crédit, puisque ce qu'on régule pour l'essentiel, c'est quand même les risques de crédit. La liquidité, les économistes le disent depuis très longtemps, la liquidité est un concept qui est très ambigu, qu'on n'a jamais réussi à définir précisément. En tout cas, il est très difficile d'avoir une mesure claire de la liquidité et donc du risque de liquidité. Plus précisément, je crois que la notion de liquidité qui s'applique à ce qu'on appelle l'intermédiation de bilan, c'est-à-dire l'intermédiation réalisée par les banques de dépôt, cette intermédiation-là, elle est d'une autre nature que l'intermédiation... la liquidité et le risque de liquidité qui s'applique aux activités de marché et qui concerne, par conséquent, pour faire vite, et c'est sans doute caricatural, les banques de financement et d'investissement. Dans ces conditions, c'est vrai que la réglementation du coût de la liquidité devient quelque chose de difficile, et c'est ça que je voudrais évoquer. Pour ce qui est de la régulation du risque de liquidité dans l'intermédiation de bilan, au fond, on sait que ce qu'on raconte d'habitude, c'est que les banques traditionnelles, elles ont des passifs qui sont exigibles à vue ou à court terme et elles en font des actifs illiquides et de plus long terme. Par conséquent, les banques commerciales, les banques de dépôt traditionnelles, produisent de la liquidité en faisant de la transformation. Or, cette transformation est évidemment utile au fonctionnement de l'économie, ne serait-ce que parce que si elle ne le faisait pas, le coût du crédit serait plus élevé. Au fond, c'est la théorie de l'intermédiation tout à fait traditionnelle. Ce qui est vrai, ce qui s'est passé depuis quelque temps, c'est ce que vient de rappeler Gilles de Margerie, c'est-à-dire que les dépôts, la part des dépôts dans les passifs bancaires, dans les ressources bancaires, s'est réduite et que par conséquent, les banques ont continué à faire de la transformation, mais d'une façon différente. Jusque-là, en gros, elles avaient des dépôts à vue qu'elles transformaient en actifs illiquides et de long terme. Donc, on jouait sur la loi des grands nombres. On se disait qu'il pouvait y arriver, il pouvait arriver que dans certaines périodes, en effet, il y ait un bug, c'est-à-dire les paniques bancaires. Et c'est bien pour ça qu'existait un prêteur en dernier ressort. La crise qui s'est déroulée n'est pas, à l'exception près de peut-être Northern Rock, n'est pas une crise de liquidité au sens où il y a eu des paniques, enfin des déposants courant au guichet. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une panique bancaire sur le marché interbancaire. Et par conséquent, on a été confronté à une forme de crise à laquelle, effectivement, on n'était pas préparé, pour laquelle néanmoins on peut penser que l'intervention du prêteur en dernier ressort était justifiée. Je crois que par rapport à cette question, il existe quand même des solutions. Peut-être d'ailleurs que si les banques ont vu réduire la part des dépôts dans leurs ressources, c'est parce qu'il y a eu la concurrence, évidemment, des SICAV monétaires, notamment. Donc, elles ont émis des certificats de dépôt en contrepartie. Et c'est peut-être parce que, justement, elles n'ont pas rémunéré les dépôts. Une façon de retrouver des dépôts dans vos ressources serait de rémunérer les dépôts. Il y a sans doute des problèmes de fiscalité qui se posent, puisque, en l'occurrence, la fiscalité des fonds et la fiscalité des dépôts, des revenus versés sur les dépôts n'est pas la même, mais c'est sans doute une façon de faire. Par ailleurs, Gilles de Margerie disait, désormais, on va regarder quand même, on disait dans le temps, on ira chercher tant de milliards sur le marché, on va maintenant essayer d'arriver à faire mieux coller les échéances des actifs et les échéances de passifs. Bref, on calcule des impasses à différents horizons et ensuite, on essaye de combler ces impasses en espérant que ces impasses ne demanderont pas un recours au marché excessif pour ne pas être soumis à ces problèmes de liquidité. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'au fond, la mesure du risque de liquidité dans le cas de l'intermédiation de bilan, elle me paraît théoriquement relativement simple et que donc on peut réguler à partir du moment où le risque est facile à mesurer, on doit pouvoir imaginer une régulation. Ce doit être, je suppose, plus facile que dans le cas de la régulation de la liquidité ou du risque de liquidité dans les activités de marché. La liquidité de marché, la notion de liquidité de marché, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir avec la production de liquidité dont je viens de parler. La liquidité de marché, c'est ce qui consiste à mettre face à face des prêteurs, des emprunteurs. C'est ce qui permet, au fond, ce qu'on va mesurer, c'est la fourchette acheteur-vendeur. C'est la possibilité pour les banques d'amener des entreprises sur le marché. Et donc, on dira que la liquidité est plus forte lorsque la fourchette acheteur-vendeur est plus faible, lorsqu'il est possible d'emprunter à un coût plus réduit sans déstabiliser le marché, des montants importants, etc. Donc, la façon dont je définis la liquidité et donc le risque de liquidité sur les activités de marché, c'est tout autre chose. Alors, pourquoi réguler la liquidité de marché ? Essentiellement parce qu'il se trouve qu'il y a une imbrication entre les activités de marché et les activités de banque traditionnelles, c'est-à-dire que pour faire la liquidité de marché, pour que les banques de financement et d'investissement fassent leur job de production de liquidité sur le marché, il faut qu'elles versent des marges, il faut qu'elles portent pendant certains temps des émissions d'actions, il faut qu'elles fassent des arbitrages qui supposent de tenir des positions pendant un temps, et donc elles ont besoin de liquidité au sens funding. Et donc, ce qui les met par conséquent en rapport avec les banques traditionnelles, et c'est cette imbrication qui fait que, eh bien, on se trouve obligé de réguler ce risque de liquidité. C'est d'ailleurs exactement ce qu'ont fait les banques centrales dernièrement, puisque elles sont intervenues sur le marché et elles ont rempli un rôle qui était tout à fait original par rapport à ce qu'elles faisaient jusqu'à présent, puisque elles sont intervenues pour financer des institutions qui n'étaient pas des banques au sens propre du terme, et Bernstein, c'était exactement le cas, que aujourd'hui la Fed va acheter du commercial, enfin des billets de trésorerie, enfin des créances émises par des entreprises sur le marché. Et au fond, selon une expression que j'ai trouvée dans un papier dont je ne me rappelle plus l'origine, les banques aujourd'hui sont devenues des teneurs de marché en dernier ressort. Ce ne sont plus des prêteurs en dernier ressort, ce sont des teneurs de marché en dernier ressort. Alors ça, c'est très original et je trouve extrêmement contestable. D'abord, pour une raison, on va dire, je sais pas quoi, fondamentale, philosophique ou ce qu'on veut, qui est que normalement les marchés ont vocation à s'auto-réguler et que par conséquent l'idée que désormais les marchés ont besoin des béquilles des banques centrales pour fonctionner, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et puis ensuite, parce que d'intervenir sur les marchés et de faire la liquidité des banques contient évidemment un aléa de moralité, c'est-à-dire que les banques demain, puisqu'elles ont été sauvées dans leur liquidité, les banques demain vont négliger les problèmes de liquidité si elles savent que de toute façon la banque centrale fera la liquidité. On a beaucoup parlé d'aléas de moralité à propos de l'insolvabilité. Il y a là un problème qui est soulevé à propos de l'illiquidité. Alors, comment faire ? Comment faire ? Bon, Gilles de Margerie a évoqué un certain nombre de pistes, et donc je ne vais pas, puisque je vois que je suis un peu long, je ne vais pas revenir sur tout ça. Je crois qu'en effet, il y a un problème de produits. On peut imaginer d'éviter, puisque derrière la liquidité, il y a des problèmes d'asymétrie d'information. Et donc, si on arrive à produire l'information sur les actifs qui s'échangent, on devrait en partie résoudre le problème. Cela dit, j'y crois, moi, pas beaucoup. C'est-à-dire que je suis certain qu'en effet, dans les mois ou dans les deux, trois ans qui viennent, bien sûr, les banques feront attention. Bien sûr, on demandera on posera des questions à propos des innovations. Mais j'ai quand même la conviction que la crise passée est un peu oubliée. Et c'est vrai que dans la finance, au fond, la mémoire est courte. La crise oubliée. On va trouver des innovations formidables et qu'on continuera à faire l'éloge des innovations à propos de produits dont on mesurera pas forcément les conséquences en termes de liquidité. Donc j'ai qu'une moyenne confiance dans cette autorégulation ou même dans cette régulation sur des produits et que dans ces affaires, ce que l'on appelle la capture du régulateur est quand même une question importante. Alors, l'autre solution, c'est réguler les institutions. Mais à partir du moment où j'ai beaucoup de mal à définir ce qu'est la liquidité d'un actif, J'ai évidemment beaucoup de mal à définir la liquidité d'une position et j'ai beaucoup de mal à définir par conséquent la régulation qui va avec. Dans ces conditions, deux solutions, ou bien vous pensez que néanmoins, en dépit des réserves que j'émets, c'est possible de réguler les produits, les marchés, les institutions. Très bien, donc on se dirigera vers cette solution pour essayer de répondre à cette question de la liquidité. Ou bien vous n'y croyez pas, auquel cas, je crois qu'il faut faire en sorte qu'il y ait le moins d'interconnexions possible entre la banque traditionnelle et la banque de marché. Gilles de Margerie disait « Nous allons essayer de faire maintenant notre métier », je crois qu'il faut l'encourager. Et que donc, pour cela, peut-être que la meilleure solution consiste tout simplement à segmenter les activités. La crise de 1929, comme vous le savez, a donné lieu au Glass-Steagall Act, qui est un système qui avait été produit effectivement par la crise de 1929. C'est la régulation de la crise de 1929. Eh bien, après cela, on a connu, au fond, une croissance, enfin, un système financier certes rustique, enfin, en tout cas, qui n'avait pas la sophistication d'aujourd'hui, mais qui a fonctionné quand même raisonnablement bien pendant 30 ou 40 ans, et qui, à ma connaissance, n'a pas posé de problème à la croissance économique des pays développés. Donc, en définitive, est-ce que une segmentation des activités ne sera pas la nouvelle réponse à cette crise? Je le pose évidemment sous forme de question, mais c'est peut-être une suggestion.
Bon, on va voir ce que Michel Sicurel pense du retour de Glass-Steagall.
Oui. Le plus grand bien, puisque moi je suis spécialiste, donc ça me va très bien. Mais peut-être que Gilles est moins d'accord. Non, écoutez, je vais vous dire, je suis très embarrassé pour vous parler, parce que réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce soir, je me suis dit deux choses. La première, c'est que j'ai fait dans le passé, il y a 35 ans, un métier d'avenir, puisque j'étais fonctionnaire au Trésor, et je fais aujourd'hui un métier du passé, puisque je suis banquier, que je m'occupe de gestion d'actifs financiers, que je suis sur les marchés. Donc je me suis dit, finalement, est-ce qu'il faut que je leur parle de l'avenir ou du passé? Et puis, comme on gère notre maison, qui est spécialisée dans la gestion d'actifs, gère des actifs sur le moyen terme, que j'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer, je me suis dit, c'est peut-être imprudent de leur parler d'avenir, et je ferais mieux de leur parler du passé, pour moi et pour mon métier. Mais finalement, je me suis quand même résolu, puisque c'est notre métier, quand je dois gérer des actifs pour nos clients, je me suis décidé quand même à vous parler d'avenir, et même pas de demain, parce que je ne sais fichtrement pas ce qui va se passer demain, mais plutôt d'après-demain. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est quelles sont les limites et les effets secondaires du traitement de la crise, et est-ce qu'il n'y a pas des risques que finalement le remède soit pire que le mal et qu'on donne des traitements qui conduiraient à ce que le malade soit guéri mais mort. Voilà. Alors, je me suis posé cette question. Alors, d'abord en disant que sur la crise financière et sur son traitement, il y a désormais un consensus quasi global. Et je dois dire franchement, personne ne s'étonne de cet incroyable consensus. Enfin, c'est absolument inouï, voir un gouvernement américain ultra-libéral pas tellement éloigné du gouvernement qui va succéder, c'est absolument inouï. Le G20, qui n'a pas décidé grand-chose, mais qu'ils aient pu se parler sans s'invectiver, est absolument inouï. Donc il y a un consensus quasi global, c'est-à-dire, je veux dire, planétaire, assez rare, et il y a accord sur tout. Alors d'abord, il y a accord sur la violence de la crise, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Je me souviens de m'être retrouvé sur un plateau de télé avec Michel Aglietta, qui disait que ça allait être affreux, et moi je lui disais « mais non, mais non », et c'est lui qui avait raison. Et je suis d'accord avec lui, non, c'est affreux. Il y a un accord sur l'intervention massive de l'État et des banques centrales pour éviter la faillite du système bancaire. Et je crois que quand on a vu 29 une fois, on n'a vraiment pas envie de le voir une deuxième fois. Il y a eu quelques hésitations, des congressmen qui faisaient leur chochotte. Mais enfin, la faillite de Lehman a précipité la crise bancaire, mais a aussi éliminé les hésitations idéologiques sur l'urgence d'un traitement massif. Et il ne faut aucune limite au traitement des banques. Il n'y en a aucune. Enfin, aucune souhaitée. Aux banques centrales, le traitement de la liquidité sans limite, et aux États, le traitement de la solvabilité sans limite. Alors, Gilles de Margerie a raison. La question est, est-ce qu'on a les sous pour traiter tout sans limite? Mais franchement, je préfère penser que oui, parce que si ce n'est pas le cas, ça ne sera pas drôle du tout. Voilà. Et je crois qu'au passage, pour ceux qui ont des hésitations éthiques sur le moral hasard, comment on dit en français, l'aléa moral, je crois qu'il est respecté, puisque les dirigeants des banques qui ont fait des sottises sont virés et que les actionnaires sont lessivés. Bon, donc au total, je pense que l'éthique a été respectée. Et il y a un accord, enfin, sur le mouvement de balancier des modèles économiques, parce que ça faisait en gros 25 à 30 ans que le balancier avait été vers la dérégulation, la désintermédiation, etc. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui, plus ou moins d'accord, pour dire que le mouvement de balancier doit aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut plus de régulation et moins de marchés dérégulés. Même les hedge funds, qui n'est vraiment pas du tout facile de réguler et qui n'auraient d'ailleurs plus aucun intérêt s'ils étaient régulés, vont l'être un peu. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut plus de Keynes et moins de Friedman et d'école de Chicago, plus d'Europe et moins d'États-Unis, plus d'économie réelle et moins de finances. Enfin, tout le monde dit la même chose, en gros. Donc, je ne vais pas passer des heures à vous le redire encore une fois. Bon, donc la messe est dite. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vous dire quelques mots très simples et très sommaires sur la suite. Et simplement pour poser des questions, plus qu'apporter des réponses, parce qu'aujourd'hui, il faut être drôlement gonflé pour apporter des réponses, simplement pour veiller à ce que les excès qui ont conduit à la crise ne justifient pas les excès du traitement. Et je voudrais faire quelques remarques simples. La première est très générale, mais c'est de dire qu'en fait, en économie de marché, les bulles et les crises font partie du système. Enfin, il ne faut pas croire chaque fois qu'il y a une bulle qui éclate et une crise qui démarre, que c'est la fin du système. C'est juste que ça fait partie du système depuis la crise de la tulipe il y a à peu près 500 ans ou 600 ans, je ne sais plus très bien. Tout le monde connaît la bulle de la tulipe. Schumpeter a magnifiquement montré comment les crises sont inévitables et comment elles constituent le ferment de la prospérité future. Il y aura toujours des bulles et des crises dans ce système. Et dans l'autre système, il n'y a pas de bulles et de crises, c'est la crise permanente. Donc je pense qu'il ne faut pas condamner le système et jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est très important, franchement, je crois. Et je crois que ça donne aussi un peu de... Ça permet de relativiser parce que, franchement, il y a fin 2006... Moi, j'ai commencé, il faut dire, comme j'ai battu ma coulpe à l'égard de Michel, je peux quand même dire que je ne me suis pas gouré tout le temps. J'ai commencé à avoir la trouille fin 2006, début 2007. Je l'ai écrit, en plus. Il y a un article que vous pourriez retrouver dans la Tribune qui s'appelait, de janvier 2007, qui s'appelait « La planète finance danse sur un fil ». Et à l'époque, tout le monde était euphorique, ou à peu près tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde est très noir. Et je pense que c'est pas mal d'avoir une espèce d'horizon de fin de crise pour essayer de s'imaginer ce qui se passera à la fin de la crise, parce qu'elle finira. Bon, je sais pas exactement quand, mais elle finira. Donc c'est important de penser à ce qui se passera après. Alors le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que l'État... me semble-t-il, et en effet sous réserve de la remarque qu'a faite Gilles de Margerie, qui est en effet importante, il me semble, et en tout cas il faut le croire, que l'État et les banques centrales ont les moyens de se mettre en face du système bancaire, l'ont fait et le feront jusqu'au bout. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'hésitation de la part des acteurs et des régulateurs. C'est absolument nécessaire, puisque c'est le cœur du réacteur de l'économie globale. Mais la question est, faut-il aussi que les États se mettent en face de l'économie mondiale pour la sauver ? Et ça, je crois que c'est vraiment compliqué à imaginer, parce que la production mondiale, c'est 60 000 milliards de dollars, et déjà, les ordres de grandeur des masses bancaires ou des masses financières qu'il y a à traiter sont gigantesques, mais l'économie mondiale, c'est un autre sujet. Et si j'évoque ce sujet, c'est parce que le tournant de la crise, c'est le débat sur l'aide des constructeurs américains. Et il faut se demander, c'est vraiment un tournant, il me semble, dans la crise. On passe du système bancaire, qui est un levier de l'économie mondiale, à l'économie elle-même. On change complètement de dimension, on change de nature. Et je pense qu'il est dangereux d'essayer d'éteindre un incendie global avec un dé à coudre. Alors, en ce qui concerne les constructeurs américains, moi, je ne connais pas le dossier vraiment suffisamment à fond pour avoir une opinion, mais je suis persuadé qu'on ne peut pas éviter durablement la faillite de ces entreprises, qui sont des espèces de brontosaures de l'ère du baril à 10 dollars, qui révoluent. Hein, le baril à 50 dollars, oui, mais à 10, je crois qu'on ne le reverra plus. Et le genre de bagnole que fabriquaient les trois constructeurs américains sont d'un autre temps. Et je ne crois absolument pas qu'on peut arrêter ce cataclysme avec un chèque de 25 milliards de dollars. Et je crois que le dire est un mensonge du même type que la guerre d'Irak et conduirait au même enlisement. Donc je pense que c'est un point assez critique, parce que, évidemment, si on commençait à toucher à l'économie dite réelle, si on sauve les constructeurs automobiles, alors il va falloir sauver d'autres secteurs, parce qu'il y a d'autres secteurs qui vont souffrir, et des secteurs qui n'ont peut-être pas la même importance systémique que la construction automobile, ses sous-traitants, etc., mais qui ont quand même une certaine taille. Et dès qu'on casse les tirelires pour faire des achats qui ne sont pas à sa portée, on est forcé de rebrousser chemin, et à ce moment-là, on casse la confiance, c'est-à-dire le crédit. Puisque aujourd'hui, ce que nous vivons aussi, c'est une crise de foi, FOI, je pense qu'il faut faire très très attention à ça. Mais vous voyez, quand M. Paulson dit qu'il va intervenir sur le bas de bilan des banques, et racheter les créances toxiques, et qu'après, parce qu'il n'a pas assez d'argent, il est obligé de dire qu'il va remplacer ça par le haut du bilan, parce que ça coûte 12 fois moins cher, et bien ça crée une crise de confiance qu'on paye depuis 3 jours sur les marchés financiers, et on ne peut pas se permettre des variations palinodiques de ce genre. Voilà. Le dernier point que je voudrais évoquer, j'espère que c'est le dernier, parce que je pense qu'on est en retard, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est de dire que, en fait, l'erreur humaine n'épargne pas les régulateurs plus que les opérateurs privés ou les chefs d'entreprise ou les patrons de banque ou les membres de comités exécutifs de grandes banques. Je pense qu'elle n'épargne pas plus les régulateurs que les autres. Mais alors, quand elle touche les régulateurs, elle est par définition systémique. Vous voyez, lorsque des dirigeants industriels se trompent, ça peut être sérieux. Je me souviens, par exemple, je suis au conseil de Bouygues Télécom, je me souviens que quand les deux autres opérateurs mobiles, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, ont surpayé la licence UMTS et que Martin Bouygues a dit « c'est débile », c'était en effet une erreur majeure. Il y a eu des vraies difficultés du secteur des télécoms à cette période. Bon, c'était sérieux, mais ce n'était pas systémique. Lorsque les banquiers se trompent, c'est plus grave, parce que les banquiers ont l'habitude traditionnelle depuis des lustres de faire la même connerie en même temps. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir, ça fait au moins 25 ans que j'avais cité dans une conférence de ce genre les deux Dupont dans Objectif Lune. Les gens de ma génération s'en souviennent, lorsque le professeur Tournesol dit la fusée va être en état d'apesanteur, tenez-vous, et les deux Dupont se tiennent l'un à l'autre et se crachent par terre. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça que font les banquiers, je le reconnais. Donc les banquiers, c'est plus grave que les industriels, et puis c'est aussi plus grave parce qu'on l'a dit, c'est le cœur du réacteur. Mais alors par contre, quand le régulateur se trompe, c'est bien plus grave encore. Et lorsque le régulateur devient mondial, puisque c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec les G20 et ce qui succédera aux G20, alors là, si le régulateur mondial se trompe, eh ben, il peut entraîner la fin du monde. Alors, je crois, moi, que la crise d'aujourd'hui, elle est... Alors, je ne veux pas revenir sur le débat qu'a magnifiquement illustré Patrick Artus, Michel Aglietta, donc je ne reviens pas sur le macro-micro, mais moi, j'ai eu vraiment depuis plusieurs années la conviction que la macroéconomie était en train de déraper gravement, que Greenspan faisait des choses affolantes. Je dois dire que j'ai pris tellement peur un jour où j'ai parlé à Greenspan, qui était à Paris, je crois que c'était juin ou juillet 2006. Je lui ai demandé ce qu'il pensait des prix de l'immobilier. Il m'a répondu qu'ils ne pouvaient pas baisser, alors qu'ils avaient déjà commencé à baisser depuis 2005. Enfin, ce n'est pas grave. C'était quand même le maître du monde. Il n'était plus président de la Fed, mais c'était le maître du monde, adulé par nous tous, adulé par les financiers de la planète entière, Gilles, je crois que tu me l'accorderas. Et en fait, il m'a dit, ça ne peut pas baisser, parce que, je me souviens du raisonnement, ça m'a laissé, il y a des vrais économistes à cette table, j'étais atterré. Il m'a dit, ça ne peut pas baisser, parce que le secteur de la construction ne fait pas de progrès de productivité, que les salaires du secteur ont tendance à s'aligner sur les secteurs à gain de productivité, que donc la construction est inflationniste par nature, et donc, tendanciellement, les prix ne peuvent pas baisser. Alors, ça m'a tellement secoué que je suis rentré à la banque. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec les clients, mais moi, j'ai vendu mes actions. Et je dois dire que, vous voyez, on avait en Europe un régulateur qui s'appelle Jean-Claude Trichet, qui se faisait massacrer toute la journée par des abrutis, mais aussi par des gens de haut niveau qui ne sont pas particulièrement bêtes, et alors qu'il faisait ce qu'il était nécessaire de faire, c'est-à-dire qu'il disait... Alors évidemment, quand vous dites ça aux gens, ils vous disent « mais c'est crétin, il n'y a pas d'inflation », ils vous disaient « M3 progresse trop vite, il faut freiner ça », alors on disait « c'est un technocrate, d'ailleurs il n'a jamais changé, il est à Francfort comme il était à Paris », et le pauvre Jean-Claude Trichet se faisait injurier par tout le monde, et c'est lui qui faisait le bon boulot, et Greenspan qui faisait le mauvais boulot. Et je pense que ça n'a aucun intérêt de les comparer, sinon pour dire que le régulateur, ça dépend de qui est aux commandes, que si on avait eu au lieu du couple Sarkozy-Braun aux commandes il y a quelques semaines, ben je ne sais pas ce que ça serait devenu, mais je peux imaginer un autre couple à tout hasard, et je ne sens pas très bien. Et il faut dire que la seule conclusion que je vais en tirer, parce que je suppose qu'il faut conclure, c'est que quand même, les systèmes décentralisés, ça a du bon, même si de temps en temps, ils font des bêtises, mais que je crois que pendant la crise, le régulateur, l'État, etc., sont absolument incontournables, parce que personne ne peut agir aussi vite et aussi massivement. Mais si vous me permettez cette incantation, Dieu fasse que nos systèmes décentralisés reviennent rapidement aux commandes, parce que sinon, je ne sais pas très bien où on sera dans 2 ou 3 ans. Voilà.
Alors les deux dernières interventions, justement, vont nous dire ce qu'on peut penser du système centralisé, puisque nous allons parler du G20 et de ce qu'il faut en attendre. Donc d'abord André Cartapanis et puis Olivier Klein pour terminer, avant de vous laisser la parole. André.
Alors en effet, on a eu une réunion du G20 la semaine dernière. Et pour ma part, je me suis dans un premier temps référé à la presse et j'ai appris d'une part que nous vivions un moment historique, que nous étions en train de participer à la refondation du capitalisme. Et donc j'ai jugé utile, non pas simplement de m'arrêter à ces commentaires, mais d'aller sur le site de la Maison Blanche et j'ai tiré sur mon ordinateur à la maison les 6 pages de la déclaration officielle du G20. Et là, les surprises ont commencé à apparaître, puisque d'abord aucune décision n'a été prise. C'est simplement une feuille de route. Quant aux pistes qui ont été esquissées et qui doivent se traduire par de véritables décisions pour le 30 avril prochain, je suis extrêmement sceptique sur la possibilité qu'il y a de véritablement les matérialiser. Alors c'est un petit peu ce que je voudrais tenter de développer en quelques minutes. Alors d'abord, ne soyons pas totalement négatifs, il y a à l'évidence un changement de logiciel, un changement de paradigme du point de vue de la façon dont les dirigeants du G20 interprètent, ne serait-ce que par le choix d'un vocabulaire nouveau, quand on compare par exemple à la déclaration du G7 en 1999, qui préfigurait la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle architecture financière internationale, ou les notions de discipline de marché, de recours à l'aléa moral comme élément qui bornait l'action des décideurs, de transparence de l'information, élément absolument fondamental. Tout ça a été très largement écarté, et on voit apparaître dans une déclaration du G20 la notion d'excès des effets de levier, de procyclicité de la finance, de conséquences contre-productives du marking to market, d'une sous-estimation généralisée des risques, d'une sous-évaluation des interdépendances systémiques. Et du point de vue de ce que sont également les recommandations, on a là aussi un basculement, car on fait de moins en moins appel à la notion de discipline de marché, et la régulation, c'est-à-dire la réglementation, est au cœur de la discussion qui est entamée dans ce document. Alors, pour autant, il y a un certain nombre de lignes de force qui ont été définies par les participants à ce sommet, en tout cas par les Sherpas qui ont dû préparer cette déclaration. J'en citerai 4. Premièrement, la volonté de renforcer le champ d'application de la supervision financière. Autant sur le plan géographique, en direction de ce que l'on ne nomme pas, mais que l'on reconnaît très vite, c'est-à-dire les zones franches, les paradis fiscaux, mais également vis-à-vis des acteurs qui, jusqu'à présent, y échappaient. Je crois que « hedge fund » n'est pas prononcé comme mot, mais on comprend bien qu'il s'agit de ce type d'institution. Deuxièmement, et ce point est fondamental, il y a un souhait répété d'approfondir les règles prudentielles, mais en intégrant désormais d'autres types d'objectifs, les problèmes de liquidité, les problèmes de procyclicité, les questions de risque systémique devraient désormais être pris en compte dans la redéfinition de la réglementation. Il y a 2 volets que je veux citer pour mémoire, ils sont moins importants. C'est évidemment la question des agences de notation qui seraient soumises à agrément, et puis c'est la question peut-être de la mise en cause des marchés de gré à gré, en particulier pour les CDS, en préférant que ces marchés fonctionnent à partir de plateformes d'échange organisées. Alors, cela étant dit, que peut-on véritablement penser de ces vœux? Car il s'agit pour l'instant de vœux, il ne s'agit pas de décisions qui ont été prises. Je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui vont planer sur la traduction opérationnelle de cette déclaration d'intention. Je prendrai d'abord 2 exemples. La question du remplacement du mark-to-market. C'est une chose que de dénoncer les effets pervers de ce mode de comptabilisation des actifs, notamment parmi les banques, mais que va-t-on mettre à la place ? S'agit-il de revenir à une évaluation au cours historique? Sans doute pas. Mais que faire d'autre? Va-t-on moduler l'évaluation de ces actifs en fonction de la situation de stress ou au contraire d'une situation qui serait normale? Rien ne permet aujourd'hui de véritablement pouvoir conclure face à des décisions qui vont devoir être présentés dans simplement 3 mois. Deuxième exemple, on met beaucoup en avant la nécessité de passer, alors le vocabulaire n'est pas aussi clair en la matière, mais on peut le traduire ainsi, de passer d'une réglementation micro-prudentielle à une réglementation macro-prudentielle. Il s'agirait donc d'intégrer des facteurs systémiques ou le cycle des affaires dans la définition des ratios microéconomiques. Mais comment le faire ? Est-on capable de définir cette introduction du cycle ? Peut-on introduire un provisionnement dynamique ? Comment peut-on le faire ? Je pense que, même en se référant à la littérature théorique, par exemple aux thèses qui sont produites depuis une quinzaine d'années dans ce domaine, on a beaucoup plus de thèses qui ont travaillé sur l'efficience informationnelle des marchés et les innombrables mécanismes de la mesure. On a d'innombrables thèses sur les value at risk, mais sur ces questions-là, peut-être en dehors d'Orléans, de Nanterre et un peu d'Aix-en-Provence, il y a peu de travaux qui ont été effectués. Et donc, je vois mal comment on va pouvoir définir dans quelques mois cet ensemble de changements. Il va y avoir là un travail considérable. Je rappelle que Bretton Woods est intervenu au terme d'au moins 2 à 3 ans de réflexion préparatoire. Et là, en 3 mois, ça me paraît absolument impossible. Deuxième élément que je veux, alors troisième élément, mais sous un autre volet que je veux citer, rien n'est dit sur la dimension macroéconomique. Alors ça a été évoqué tout à l'heure, on est clairement, et ça a été dit par Patrick tout à l'heure, en présence d'une combinaison de facteurs, l'explosion de la liquidité d'ensemble avec les quelques graphiques qui ont été projetés tout à l'heure, bon, nul ne peut en douter, et il y a une absence de référence à ce que pourraient être des questions de réduction des déséquilibres globaux, les problèmes de change qui y sont associés. Tout un ensemble de questions de caractère macroéconomique ont été complètement écartées. Pourquoi l'ont-elles été ? Pas parce qu'elles sont jugées peu importantes, parce que ni les États-Unis ni la Chine n'acceptaient que ce débat soit posé. Compte tenu des conséquences que cela pourrait avoir sur leur propre pilotage macroéconomique. Par voie de conséquence, eh bien, on est, me semble-t-il, en présence d'un document qui me conduit à penser que tout reste à faire du point de vue de ce que sont ces nouvelles réglementations. Et donc, on est loin d'être en présence aujourd'hui, véritablement, d'une nouvelle architecture, encore moins d'une refondation du capitalisme. Je crains que l'on ne débouche sur un faux semblant.
Dernière intervention donc sur le même thème de « Et quoi maintenant ? Quelle régulation ? Quelle coordination internationale ?» Olivier.
Alors mon thème, c'est exactement celui-là, un petit peu en amont, c'est-à-dire « Que peut-on faire contre l'instabilité financière ?» Donc c'est la réflexion qui devait fonder un peu la réflexion du G20. Et là, c'est très en amont, hein, bien sûr, et j'ai essayé de mêler quelques éléments théoriques et quelques réflexions pratiques. Je pars de deux idées. La première, c'est qu'on le constate depuis très très longtemps, comme l'a dit Michel Sigrel tout à l'heure, mais encore plus violemment depuis la déréglementation financière des années 80, la finance a une difficile autorégulation. C'est un euphémisme. Elle s'autorégule parfois pas du tout, et ça lui confère un caractère extrêmement instable. On peut dire évidemment qu'il y a toujours des crises et des bulles dans la vie, et c'est des marchés, c'est parfaitement juste. Le problème, c'est quand elles deviennent suffisamment fortes pour créer un coût économique, social, humain, parfois intenable. La deuxième idée, c'est qu'il y a une utilité de la finance et des marchés financiers, parce que d'une part, ça permet de compléter les banques qui ne peuvent pas financer à elles seules l'ensemble de l'économie, ça a été très bien dit par Gilles de Margerie tout à l'heure, et donc les marchés sont complémentaires pour le faire, mais en plus ça permet de réallouer les risques, risques de taux, risques de change, voire risques de crédit. Et on peut imaginer que ça peut bien fonctionner, même si aujourd'hui c'est un peu dangereux tel que c'est fait. Et donc quand on part de ces deux idées, on se dit, ben, puisqu'il faut sauver la finance parce qu'elle est utile, elle est utile dans un monde globalisé, mondialisé, mais elle est utile même dans un monde qu'il le serait moins, et alors que peut-on faire pour essayer d'en réduire l'instabilité ? Et pour comprendre ce que l'on peut faire, bien humblement, je pense qu'il faut essayer de réfléchir très rapidement, puisque là le temps est très limité, à ce qui fait l'instabilité fondamentale, intrinsèque de la finance. Alors, il se trouve que dans des cours, j'expose ça pendant de nombreuses heures, et là, je vais essayer de prendre 2 minutes pour faire la même chose. Donc, ça va aller un peu vite. C'est fondamentalement, probablement, le fait que le prix des actifs financiers, en général des actifs patrimoniaux, si j'y mets aussi l'immobilier, n'a pas la même logique de formation que le prix des biens et des services. Les biens et des services sont reproductibles et leur prix s'ajuste, dès lors qu'il y a un peu de demande, une demande normale, s'ajuste autour du coût de fabrication. Évidemment, rien de tel dans un actif financier. En réalité, le prix se forme en fonction des promesses de flux futurs et donc sur la confiance qu'on accorde à la promesse de ces futurs flux. Et seulement, ça serait très bien, et dans les modèles sympathiques de théorie financière ou théorie économique traditionnelle, eh bien, on probabilise le monde, on actualise, et puis on a le prix à peu près de façon raisonnable. Manque de chance, on est à chaque fois en asymétrie d'information, c'est-à-dire qu'en fait, on ne partage pas une information de loin identique entre l'émetteur et le prêteur, entre l'actionnaire et celui et l'entreprise qui émet les actions. Et ça donne déjà une incertitude assez importante. Mais c'est doublé d'une incertitude qu'on appelle fondamentale ou radicale, comme vous voulez, sur qui est liée au fait qu'on est dans une économie monétaire et de marché. Je partage tout à fait ce que disait Michel Sigurel, les autres ne marchent pas, donc de toute façon c'est la meilleure, même si elle procure inéluctablement de l'incertitude. Parce que tout simplement, dans une économie monétaire décentralisée, on a des incertitudes sur le taux d'épargne, on a des incertitudes sur le choix, les stratégies des acteurs qui sont concurrents, mais qui sont tous complémentaires, et cela rend évidemment les choses difficilement lisibles dans le futur, ce qui veut dire que le monde est difficilement probabilisable bien souvent, ça a d'ailleurs été le problème des modèles mathématiques dont on vient de parler, et que quand le monde est difficilement probabilisable, on a une incertitude fondamentale sur le prix normal, sur le prix normal d'un actif financier. Qu'est-ce que c'est son prix d'équilibre? C'est bien difficile à définir. On a des techniques, on a des choses, mais enfin, on n'est pas sûr au fond. Et donc, comme on n'est pas sûr, on s'intéresse à ce que pensent les autres de ce que sera ce prix, puisque le prix, c'est la résultante des actions de tout le monde sur le marché. Et donc, on est rentré forcément dans un mimétisme important qui est propre à la finance, qui n'est pas que propre à la finance, mais qui est intrinsèque à la finance, et qui conduit aussi à un court-termisme très important, parce que quand on n'est pas sûr de la valeur, et quand on est dirigeant d'une banque, la première des choses qu'on demande aux gens, c'est demain, si le prix ne va pas dans le sens que vous disiez, vous allez arrêter vos positions, et puis si ce n'est pas demain, ça va être très vite. Et c'est normal, parce qu'on ne sait pas. Si on savait évidemment où était le prix fondamental, on dirait on va rester 3 mois en spéculation pour aller vite vers le prix fondamental, sauf que si on n'est pas sûr de là où est le prix fondamental, donc on donne des règles assez court-termistes aux gens qui gèrent les marchés. Et puis mimétisme, bien évidemment, parce que quand on ne sait pas, on fait attention à ce que pensent les autres, tout le monde faisant pareil, mais on arrive forcément à forger des opinions communes qui peuvent être bonnes, mais qui parfois ne sont pas bonnes du tout. Et naturellement, ça donne de la procyclicité également, du crédit et du prix des actifs financiers, parce que dans les moments où on est dans un mimétisme profond, ce qui se passe, c'est très simple, c'est quand ça monte, on pense que ça va continuer de monter, parce que c'est la tendance générale, c'est l'opinion commune, il ne faut jamais jouer contre l'opinion, quelqu'un a dit ça depuis très longtemps, il s'appelle Keynes, et puis quand ça baisse, il vaut mieux vendre, même si on pense que soi-même, on pourrait penser qu'il n'y a pas de raison que ça baisse tant, parce que si on est le dernier à vendre, on aura tout perdu. Donc il vaut mieux jouer, n'est-ce pas, le départ du marché, que d'avoir raison à long terme, parce qu'à long terme, on ne sait pas ce qui va se passer, et que de toute façon, on aura peut-être fait faillite entre les deux. Donc, au total, la finance est profondément mimétique et court-termiste, et c'est ça qui provoque son instabilité fondamentale, parce que ça développe des bulles spéculatives qui peuvent être considérables. Parfois pas, mais parfois oui, comme on est en train de le voir, évidemment, de façon un petit peu douloureuse. Alors, les causes pour limiter cette instabilité fondamentale s'organisent, à mon idée, autour de 2 types de causes. Les plus faciles, que je vais traiter en premier parce que c'est plus facile, c'est les causes de l'instabilité exogène au monde de la finance, exogène et donc non intrinsèque. Alors, je ne vais pas être long parce que André en a déjà parlé, notamment, pas que lui, André Cartapanis, c'est les normes IFRS, évidemment, ont été des causes d'instabilité accrues, exogène à la finance, parce qu'on peut très bien avoir d'autres règles de comptabilité, mais le fait de vouloir coter trop de choses en fair value, quand on décide que la fair value, c'est la valeur de marché, si la valeur de marché n'est pas fondamentale et qu'elle est incertaine, à ce moment-là, on est obligé d'avoir quelque chose qui devient très erratique, et ça devient dangereux. N'oublions pas en plus que les normes IFRS rendent absolument difficile pour les banques, pas impossible, mais quasi impossible pour les banques de faire du pré-provisionnement, c'est-à-dire de provisionner quand tout va bien, on devrait provisionner pour le futur, c'est-à-dire pour les risques de crédit futurs, mais maintenant avec IFRS, on peut pratiquement plus. Ce qui évidemment est quelque chose d'encore plus procyclique et non stabilisant. Le deuxième point, c'est Bâle 2. Bâle 2, ça comprend deux choses. C'est comment, c'est donc la régulation prudentielle bancaire, bien sûr. Et ça comprend deux choses. C'est la régulation du crédit, la régulation pour exiger une quantité de capitaux propres, n'est-ce pas, face au crédit qu'on fait. En gros, on a le droit de prêter 12 fois les capitaux propres qu'on a. Et puis, alors dans Bâle 2, déjà, on oublie les banques d'investissement aux États-Unis, c'est un petit peu énorme, mais ça va être probablement changé. Et il n'y en a plus, donc forcément, mais où elles sont achetées par des banques autres, donc ça va être plus simple. Et puis, deuxièmement, c'est la VAR, c'est-à-dire la value at risk, c'est-à-dire une mesure statistique sur des modèles qui globalement proposent le passé en sous-estimant les événements extrêmes, qui calcule le niveau de risque qu'on a en risque. Et le niveau qu'on a en risque, dès lors que les marchés ont été sages, bien et dans le bon sens pendant quelques temps, ça nous permet de prendre plus de risques et du coup ça accroît la volatilité, enfin ça accroît le cycle. Et puis à l'inverse, dès lors que les marchés sont catastrophiques, la VAR montre qu'on prend beaucoup de risques, donc on veut fermer les risques et pour fermer les risques on vend les positions et donc forcément on aggrave le mouvement baissier, c'est-à-dire que la VAR c'est extrêmement procyclique et en plus ça mesure très mal le risque comme chacun le sait maintenant. Troisième point, c'est la rémunération des traders. Ça a été dit ici. Évidemment, la rémunération des traders, c'est un peu facile de dire que c'est la cause fondamentale de la crise. C'est complètement faux. Mais c'est un des éléments, naturellement, qui a accru le niveau de risque. Alors, j'ai noté ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, premièrement, à mon avis, faut limiter, et là, il y a un peu d'autorégulation des maisons, faut limiter le niveau de rémunération des traders. Quand un jeune trader gagne plusieurs millions d'euros par an, s'il se trompe au bout de 10 ans, c'est pas grave, il a assuré sa retraite. Donc, il peut prendre des risques inconsidérés. Deuxièmement, et puis c'est pas très équitable probablement par rapport à d'autres qui ont des métiers qui sont pas si mauvais non plus. Ensuite, il y a le fait de voir des traders qui sont payés une fois les opérations débouclées, a dit Gilles de Margerie, ça me semble une excellente idée. Puis j'en propose une autre qui est plus délicate, mais qui me semble quand même raisonnable. C'est, puisqu'il y a des moments euphoriques dans les marchés, puis des moments détestables, et que ça met quelques années pour que ça s'inverse, c'est de payer au bout de quelques années. C'est d'attendre les mauvais moments aussi. Parce que sinon, c'est trop facile. Je suis trader pendant 3 ans, je gagne 10 millions d'euros ou 5 millions d'euros par an. Et puis, au bout de 5 ans ou 3 ans, avant que la crise n'arrive, je me mets à la retraite et je regarde la crise en me frisant les moustaches. Il y a quand même quelque chose qui me semble là un peu anormal. Si on réglait mieux ça, il me semble que ça pourrait... Alors, on peut dire, mais alors d'où ça vient? Est-ce que c'est les dirigeants de banque qui vont être capables de faire ça? Peut-être. On a dit tout à l'heure, et Gilles de Margerie a dit, pendant plusieurs années, on ne va pas nous y reprendre. Le seul petit problème, c'est que dès que les marchés remonteront, je suis persuadé qu'on a une capacité d'oubli qui est phénoménale, et c'est normal, ça s'appelle l'aveuglement au désastre, ou le désastre myopia, c'est connu dans tous les biais cognitifs qu'on remarque, on n'aime pas se souvenir des choses qui sont allées très mal, et très vite les banques vont se faire concurrence pour attraper les traders qui gagnent le plus d'argent, et donc on va les repayer très cher. Donc je suggère quand même qu'il y a un élément régulatoire là-dedans, et que les banques sont, et que la partie supervision des banques dise comment payez-vous vos traders, et plus vous les payez de façon déraisonnable ou de façon court-termiste, plus j'augmente votre quantité de capitaux propres nécessaires. Il me semble que ça serait une bonne idée pour essayer de limiter le phénomène, et ça importerait un peu de sagesse aux dirigeants bancaires qui, parfois, pris par la concurrence, ne peuvent pas se le permettre. Quatrième réflexion très rapide sur l'exogénéité des causes, c'est les agences de notation. Alors, on a dit elles ne sont pas fautives. Elles ne sont pas fautives, à mon avis, mais elles ont quand même des problèmes. Le premier problème, c'est que qui paye les agences de notation? Normalement, dans un monde bien fait, ça devrait être les investisseurs. Mais c'est pas possible parce qu'ils sont disséminés et que naturellement, personne ne veut payer le prix de la recherche. Et c'est bien normal puisque une fois je vais faire, une fois je vais pas faire, puis je peux être tout petit investisseur, je peux être un peu plus gros. Bon, c'est disséminé. Donc c'est forcément les émetteurs. Mais quand je paye pour ma propre notation, il y a quand même un petit problème moral, malgré tout. Alors il y a deux idées. La première, c'est de rendre les agences de notation publiques. J'y crois pas beaucoup non plus, mais c'est une idée quand même. Et puis la deuxième, je la trouve meilleure. J'en ai déjà parlé une fois à Michel Aglietta, on n'était pas totalement d'accord, mais pas totalement désaccord non plus, c'est de dire au fond, il faut faire de la jurisprudence, il faut
accroître la responsabilité pénale des agences de notation, comme on l'a fait pour les commissaires aux comptes. Mais oui, comme on a fait pour les commissaires aux comptes, quand on a eu Enron, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit les commissaires aux comptes, là aussi, ils n'ont aucune responsabilité. Ils signent, ils disent bravo, j'ai signé, ah, je me suis trompé, les comptes n'étaient pas ceux que je croyais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la responsabilité et on a fait des procès contre eux. Depuis, je peux vous dire qu'un commissaire aux comptes, avant de signer des comptes, il regarde 10 fois. Avant, il était complaisant, parfois. Et alors, ce qui nécessite, si on transpose un peu la chose, de se dire, ben, il y a une agence de notation, au fond, ça ne serait pas idiot de se dire, si jamais elle ne s'est pas donné les moyens, au moins, de bien faire son travail, ben, on peut lui faire procès, parce qu'elle est responsable. Et à ce moment-là, devra beaucoup d'argent. Je suis sûr qu'ils vont bien faire leur travail. Quatrième point, c'est au minimum, quand même, à mon avis, séparer les activités de notation et les activités de conseil. Parce que ça, c'est quand même incroyable. Vous avez de la même agence de notation qui vient vous proposer de faire un conseil pour être bien noté, puis la même agence de notation vient vous dire « je viens vous noter ». Ça, c'est un peu quand même... Du coup, il y a quelques banques d'investissement que je connais, ils voyaient les agences de notation, ils me disent « qu'est-ce qu'il te faut pour avoir 3A ?»« Ah, tu veux ça ? Bon, alors, je vais te mettre 3 CDI de plus et j'aurai 3A. » Et oh, il y avait 3A. Donc, c'était un tout petit peu quand même limite, à mon avis, moralement, ça serait pas plus mal de bien séparer ça. Cinquièmement, et j'en ai fini pour les agences de notation, ben, il faut quand même les superviser un minimum. Voilà. Parce qu'il faut superviser leur méthode, à minima. Alors, les agréments, j'y crois pas beaucoup. Il y en a 3 dans le monde. On peut toujours les agréer. Il n'y en a que 3. Mais c'est au moins les superviser, ça me semblerait raisonnable, notamment dans leur méthode. J'ai fini pour la partie les causes sur l'instabilité exogène, mais je voudrais regarder rapidement, même si c'est le plus dur cette fois-ci, les causes d'instabilité endogène. Les causes d'instabilité endogène, c'est comment limiter le court-termisme et le mimétisme sur les marchés financiers, alors qu'on a vu que parce qu'il n'y avait pas facilement de monde probabilisable, parce que ce n'était pas facile de trouver les prix d'équilibre, c'était assez naturel. C'est pas parce que les financiers sont fous. C'est parce que, justement, ils sont rationnels qu'on tombe dans le court-termisme et dans le mimétisme. C'est parfaitement rationnel, c'est pas de l'irrationalité. Donc, c'est difficile de dire comment on va limiter cela. Donc, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'ai une proposition que, aussi, j'avais discuté un jour avec Michel Guetta, qui, je crois, pensait exactement la même chose, c'est de dire, peut-être, même si les banques centrales de temps en temps interviennent, comme Greenspan, dès 1996, pour dire qu'il y avait une exubérance irrationnelle sur les marchés, mais ça n'a pas fait grand-chose, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un observatoire indépendant, alors qu'il serait lié à la BRI, la Banque des règlements internationaux, ou FMI éventuellement, de toute façon, peut-être la FMI va ravaler la BRI, si j'ai bien compris, enfin, il y a des idées, peu importe, un observatoire indépendant des tensions spéculatives sur les marchés financiers. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a des études des économistes de la Banque des règlements internationaux qui sont très, très intéressantes sur l'instabilité financière, notamment de Borio et Love en 2002, qui essaient d'avoir des indicateurs prédictifs des crises financières et bancaires, et qui arrivent à trouver des choses assez simples et qui fonctionnent pas mal de façon prédictive. Alors on prévoit, évidemment, elles ne disent pas quel est le prix fondamental du cours du change ou du prix d'une action, bien sûr que non, mais ils remarquent quelles sont les tensions spéculatives. Et regarde, 3 indicateurs principaux, il y en a d'autres, mais les 3 indicateurs principaux et les 3 combinés donnent des choses intéressantes. C'est la façon dont s'écarte le ratio crédit sur PIB par rapport à sa norme de long terme, le taux de progression des actions par rapport à un taux de progression de long terme, et le taux de progression de l'immobilier par rapport à une progression de long terme. Et ces 3-là, mis bout à bout en les combinant, donnent des capacités prédictives non nulles des crises futures, donc donnent des idées de les tensions spéculatives. Si on pouvait produire un rapport trimestriel, au début, personne n'y croirait peut-être, mais petit à petit, si ça a un peu de crédibilité, avec la publicité qu'il faut par une agence indépendante dépendante du FMI ou de la BRI, il me semble que les marchés attendraient ça aussi bien que les résultats de Volkswagen. Il n'y a pas de raison. Et ils regarderaient ça, et du coup, ça leur donnerait quelques éléments non autoréférentiels, parce que le prix de Volkswagen et les marchés financiers sont très autoréférentiels. Ça serait non autoréférentiel, fait par des gens qui ne sont pas dans le marché et qui pourraient donner quelques indicateurs qui nourriraient l'intelligence, les anticipations des agents sur les marchés qui, encore une fois, ne sont pas irrationnels. Deuxièmement, alors c'est une idée difficile, mais je pense quand même que ça peut se regarder. Ce sont les fonds. Les fonds d'investissement, Michel. Alors, pour leur donner un peu plus, ou faire en sorte qu'il en existe de plus long terme. Alors Patrick a aussi développé cette idée, mais travailler un peu sur l'idée qu'il peut y avoir des fonds d'investissement de plus long terme. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus court-termiste qu'une SICAV, hein, parce qu'elle regarde tout simplement les prix, puis elle a des clients hein, qui investissent. Alors si elle se dit fin 99, le high-tech est fou, elle ne peut pas désinvestir du high-tech. Parce que si elle se trompe de 6 mois sur le retournement de la bulle à high-tech, elle a des clients qui, comme elle regarde le benchmark entre toutes les SICAV tous les mois, se dit ben, « si ma SICAV ne profite pas de la bulle sur la high-tech pendant 6 mois, on va me retirer l'argent pour aller sur d'autres, même si j'ai raison dans 6 mois ». Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très difficile. Mais quand même, on peut se dire, un, il y a les fonds souverains. Deux, il y a les fonds de pension. Je sais bien qu'en France, on dit toujours les fonds de pension, mais la réalité, c'est quand vous interrogez souvent les directeurs financiers des grands groupes cotés, les investisseurs les plus longs, c'est les fonds de pension, bien mieux que les gestionnaires de SICAV à court terme. Et donc l'intérêt, c'est peut-être de faire des comptabilités pour ces fonds de pension qui évitent de les mettre eux-mêmes en système benchmarké à 3 mois, parce que de toute façon, ils sont sûrs de leur sortie, qu'ils sont échéancés dans le temps, et développer justement une capacité à ce que cela ne rentre pas dans le court-termisme. Ça serait très important. Et puis pourquoi pas, une idée que je propose comme cela très rapidement, faire des fonds d'investissement pour vous et moi, hors des fonds de pension, qui, parce qu'on pourrait en sortir, pas tous les jours, pas tous les mois, peut-être que tous les ans, et sur plus long terme, seraient défiscalisés ou moins fiscalisés, parce que justement, on jouerait le plus long terme. Aujourd'hui, vous êtes défiscalisé quand vous rentrez dans un PEA, mais vous ne faites pas du long terme. Dans un PEA, vous êtes obligé de garder l'argent à long terme, mais sa gestion n'est pas forcément long terme. Dans un PEA, moi, je change de SICAV tous les jours, si je veux, et je mets une SICAV qui marche, puis le lendemain, j'en mets une autre, puis après une autre encore. Et donc, d'un PEA ne garantit pas que l'investissement soit de long terme, il garantit que l'argent investi est de long terme, mais la gestion n'est pas de long terme. Donc, passer d'une fiscalisation avantageuse du long terme sur les fonds, au lieu de les faire sur les produits, sur les produits de placement eux-mêmes, comme l'enveloppe qu'est le PEA. Troisième possibilité que je suggère, mais celle-là elle est évidente et elle est dans le G4, dans le G20, c'est évidemment d'élargir les fonctions des organes de supervision, tant géographiquement que sectoriellement. Moi, il me semble qu'il y a des relations incroyablement liées entre banque et assurance, et que si on avait des superviseurs qui pouvaient regarder peut-être les deux à la fois, ce ne serait pas idiot. Au niveau européen, avoir au moins une fédération des superviseurs, un organe des organes européens, parce qu'il y a quand même des interactions et des banques qui, évidemment, sont très implantées sur l'européen. Je vais finir vite. Une supervision, ça va sans dire, des hedge funds, au moins pour dire ce qu'ils font, et imposer un minimum de règles. Et puis alors, quelque chose qui m'a paru absolument aberrant, c'est qu'il n'y ait pas de supervision et d'organes de régulation des supports de titrisation, des véhicules de titrisation, alors que les banques, en titrisant, faisaient des shadow banks, des banques de l'ombre, n'est-ce pas, dans lesquelles elles cachaient une partie tout en faisant des leviers extravagants, en enlevant une partie des actifs, en les refinançant sur les marchés. C'est-à-dire qu'on faisait de la banque totalement dérégulée par les banques qui elles-mêmes étaient régulières. C'est une façon, évidemment, de contourner la régulation de Bâle II, mais enfin une façon qui se révèle particulièrement coûteuse. Et dernier point, c'est la titrisation et les crédits default swap. Sur la titrisation, moi je crois qu'il y aura toujours besoin de titrisation, précisément parce que les banques ne peuvent pas tout financer, donc elles doivent sortir à un moment du bilan une partie des crédits. La seule chose, c'est qu'il faut les standardiser pour pas qu'il y ait tout et n'importe quoi dedans, parce que notre problème, ça a été précisément de... Quand les banques ont titrisé, c'était qui avait mis quoi dedans, on ne savait rien, et puis c'était mis n'importe comment, enfin très compliqué. Qui l'avait acheté, on ne savait pas non plus. Donc, ce qui est important, me semble-t-il, c'est la standardisation. Et la deuxième chose, c'est de limiter l'aléa moral, le risque de moralité des banques. Parce que quand leur fonction fondamentale, c'est de prêter, et donc de sélectionner les clients, pour prêter quand même aux bons clients et pas à ceux qui ne peuvent pas rembourser, c'est la fonction des banques. Et puis la deuxième chose, c'est de superviser le client pendant la durée du prêt, ce qui est normal, ça s'appelle monitorer. Bon. Or, quand vous titrisez, vous en fichez du crédit que vous avez fait en termes de qualité, puisque vous allez le vendre à quelqu'un d'autre, et vous ne supervisez plus votre client, ce qui est une des fonctions traditionnelles des banques. Et donc, je pense qu'il est absolument important, dans les futures titrisations, d'imposer aux banques de garder, par exemple, 20% du crédit pour qu'elles soient toujours responsables du crédit qu'elles font et de la supervision dans la vie du crédit de l'emprunteur. Enfin, et j'en ai terminé cette fois-ci vraiment, par deux réflexions qui sont plus en amont. Est-ce que la politique monétaire peut lutter contre l'instabilité financière ? Greenspan a répondu non, les banques centrales en général répondent non. La Banque centrale européenne le fait sans le dire parce qu'elle surveille l'agrégat qu'est le crédit. Et donc on a vu tout à l'heure qu'en général, quand les actions montaient, quand l'immobilier monte, ben, le crédit monte aussi. Hein. Et donc d'une manière ou d'une autre, il y a la supervision. Sauf que l'outil pour le faire, comme le disait Patrick Artus tout à l'heure, c'est les taux d'intérêt. Mais avec les taux d'intérêt, vous ne pouvez pas tout faire. Quoi. Vous ne pouvez pas à la fois ne pas entraver la croissance et en même temps empêcher des bulles spéculatives de monter. Parfois, c'est contradictoire. Pas toujours, mais parfois, c'est contradictoire. Et donc, peut-être que dans les banques centrales pourraient se servir de la régulation, précisément de l'exigence de capitaux propres, en étant de temps en temps plus exigeant quand il y a des bulles spéculatives qui arrivent, parce que ça limite la quantité de crédit à faire, et à la rabaisser quand il y a moins de tensions spéculatives. Et puis la dernière réflexion, mais là je ne vais même pas l'ouvrir, je vais le citer, c'est évidemment si on passe du point de vue macro-financier et macro-économique général, c'est la question, faut-il un nouveau Bretton Woods? Est-ce qu'on aurait eu tout ça si la Chine n'avait pas sous-évalué sa monnaie délibérément, n'avait pas accumulé de réserves de change incroyables qui avaient financé le déficit américain sans douleur? Bon, voilà. Alors après, on peut se poser la question d'un nouveau système monétaire international. Je ne suis pas très confiant, parce qu'il faudrait pour autant qu'il y ait des communautés d'intérêts. Je ne crois pas bien que la Chine, les États-Unis et l'Europe aient des communautés d'intérêts si évidentes que cela, ni les pays pétroliers. Merci beaucoup.
Bien qu'il soit minuit, je suggère que vous puissiez poser quelques questions si vous le souhaitez.